J'aimerais d'abord m'adresser aux enfants, en mon nom personnel, mais je pense que c'est également le cas de toute l'Assemblée, leur dire un chaleureux merci pour ce qu'ils nous ont apporté en termes de chant dans la louange et dans l'adoration de notre Dieu. Alors, je ne vais pas être plus long pour les faire patienter davantage, ces petits, ces moyens, ces plus grands, et même les adultes. Pour commencer, en vous racontant un conte, une histoire qui va motiver chacun pour le texte très court que nous méditerons ensuite. J'ai entendu dire que dans une contrée lointaine habitait un roi qui avait un très beau et très grand château. Et comme beaucoup de rois de la terre, ce roi aimait les richesses, l'or, l'argent et tous les biens que l'on peut acquérir avec ce dernier. Ce roi avait aussi trois filles. Il les aimait toutes les trois. Depuis la mort de sa femme, il n'avait plus qu'elles, raison pour laquelle il leur portait toute l'attention souhaitable. Il les entourait de toute sa tendresse, passait beaucoup de temps avec elles, à jouer. Ce n'est pas l'habitude des rois. À les instruire, veillant scrupuleusement à leur éducation. Bref, c'était un roi prévenant, un roi comblé, et qui voyait ses filles s'épanouir, heureuses dans son royaume. Les années passèrent, et en grandissant, les jeunes filles commençaient à trouver la cour monotone. Elles présentaient des signes d'ennui, notamment lors des fêtes que le roi faisait régulièrement en l'honneur de tous ses sujets. Elle préférait nettement les fêtes du village. C'était plus convivial, il y avait beaucoup plus d'animation. Et cela chagrinait énormément le roi. Il voyait que ses filles commençaient à se désintéresser de la vie du château et du royaume. Alors, pour s'assurer qu'il était toujours aimé de ses filles, il décida de les convoquer l'une après l'autre pour connaître leurs sentiments à son égard. Et il appela l'aînée. « Toi, mon aînée, dit-il à la grande, peux-tu me dire combien tu m'aimes ?» Et l'aînée de répondre à son père, « Mon cher papa, je t'aime autant que toi tu aimes l'or. » Rassuré, le roi embrassa sa fille. Il s'adressa ensuite à la seconde. « Toi, ma cadette, peux-tu me dire comment tu m'aimes? Jusqu'à quel point tu m'aimes ?» Et la cadette de répondre « Mon bien cher papa, je t'aime autant que toi tu aimes l'argent. » Rassuré, le roi embrassa sa fille. Vint alors le tour de la Benjamine, à laquelle le roi posa la même question. « Toi, ma Benjamine, peux-tu me dire combien tu m'aimes ?» La jeune fille réfléchit un long moment et répondit simplement à son père, « Mon cher papa, je t'aime comme le sel. » Comme le sel. Le roi fut étonné de cette réponse pour le moins surprenante. Il n'approuvait pas du tout, mais alors pas du tout, la réponse de sa Benjamine. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Et il en arriva même à se mettre en colère. Une si grosse colère que le roi fit appeler un de ses valets, le priant d'emmener sa fille et de la chasser hors de son royaume. Ah, ce roi que l'on présentait comme quelqu'un de remarquable chasse sa fille en dehors de son territoire. Mais la petite avait l'habitude des sorties en forêt et elle ne se perdit pas. Elle s'en alla, parce qu'elle avait été emmenée très loin, dans une zone qui lui était totalement inconnue. Mais la fatigue l'a pris, et la faim. Et à la fin de la journée, elle arriva complètement harassée, fatiguée, dans un hangar agricole apparemment abandonné, ou repu de fatigue. Elle s'endormit. Heureusement pour elle, le lendemain matin, au premier rayon du soleil, le propriétaire de ce hangar, de cette ferme, arriva, découvrit la fillette complètement réfrigérée, recroquevillée dans la paille, affamée, grelottant de froid. Cet homme la rassura, l'emmena avec lui, chez lui, lui servit un bon repas, chaud, et voyant cette fillette abandonnée, décida de la garder. Il ne l'interrogea pas, il l'adopta, purement et simplement. La jeune fille grandit, elle devint une belle jeune fille, rencontra un gentil prince, comme dans beaucoup d'histoires, qui lui demanda de l'épouser. Jusqu'à présent, personne ne connaissait l'histoire de cette petite, elle ne l'avait confiée à personne, pas même à cet homme qui l'avait délivrée, qui l'avait recueillie. Mais elle avait dans son cœur toujours beaucoup de peine, parce qu'elle pensait à sa famille, à son château, à tout ce qu'elle aimait. Et finalement, elle se confia à son mari. Et celui-ci proposa à cette jeune femme d'inviter son père et sa famille à assister à un magnifique banquet qu'ils allaient organiser. Le roi, quand il reçut cette invitation, fut totalement surpris. Il ne connaissait pas du tout les gens à l'origine de cette lettre. Il ne savait même pas qu'existait aux confins de son royaume un autre territoire où se trouvait un prince qui régnait, et qu'il invitait, lui, à ce somptueux banquet. Il fut donc très étonné, parce qu'il n'avait jamais été invité à un tel banquet, mais parce qu'il ne connaît personne, il ne connaissait personne dans ce royaume lointain. Mais il décida d'y aller. Il emmena avec lui quelques-uns de ses sujets, les plus éminents du royaume, et il partit. La jeune femme, sa fille Benjamine, organisa complètement le somptueux banquet. Mais elle demanda à ses serviteurs de préparer, certes, un repas extraordinaire, fait des mets les plus fins, mais de ne pas ajouter le moindre grain de sel à la nourriture. C'est ce qui fut fait. Le roi était heureux, ravi d'être dans une ambiance aussi agréable, d'être l'objet de toutes les attentions des uns et des autres et de ce prince. Il goûta à tous les mets, plus appétissants les uns et les autres à la vue. Mais au fur et à mesure qu'il mangeait, que tous ces plats somptueux arrivaient sur sa table, il se demanda pourquoi on se moquait de lui à ce point que l'on lui présenta une nourriture immangeable, sans sel. Le moment du dessert arriva. Et la fille du roi se leva de table et se présenta à son père en lui disant simplement « Papa, je suis ta fille, ta Benjamine, celle que tu as chassée de ton royaume il y a longtemps, parce que tu n'avais pas apprécié ni compris ma réponse à ta question « Comment m'aimes-tu ?» Je voulais, en te disant que je t'aime comme le sel, te faire comprendre que tu es pour moi d'une importance capitale, de même que le sel est une denrée irremplaçable. Et aujourd'hui, en t'invitant à ce délicieux festin où tous les plats manquaient de sel, je voulais te prouver simplement que tu avais pour moi la plus grande des valeurs, que tu étais pour moi le meilleur des pères, un père irremplaçable. Que nous apprend cette histoire à nous aujourd'hui? Elle nous rappelle que nous avons, comme les enfants l'ont chanté tout à l'heure, tous ensemble, en tant que chrétiens, une grande valeur aux yeux de notre Dieu et de Jésus-Christ son Fils. Le verset 13 du chapitre 5 de Matthieu nous dit ceci, des paroles merveilleuses dans la bouche du Seigneur Jésus. Vous êtes le sel de la terre. Et Jésus d'ajouter aussitôt, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds des hommes. Analysons brièvement ces deux points. Vous êtes le sel de la terre. Et si le sel perd sa saveur ensuite, comment la lui rendra-t-on? Tout d'abord, cette affirmation qui nous est adressée à nous. Vous êtes le sel de la terre. Certes, c'est à ses disciples que Jésus s'adressait à ce moment-là, mais c'est à nous qu'il s'adresse aujourd'hui. Jésus nous amène par cette parole à réfléchir sur un point essentiel. Quel témoignage devons-nous apporter autour de nous, aux hommes qui nous entourent? Et quelle saveur donner par notre attitude, notre comportement? Ici, il n'est plus question de notre histoire ou de nos aptitudes humaines à faire un peu de bien ou à reconnaître le bien de l'autre, mais à nous interroger sur ce que nous devons être, sur ce que nous sommes. Ce sel, cette saveur que nous devons présenter aux autres, qu'est-ce que c'est? Alors je ferai un petit rappel très court sur le rôle bénéfique du sel. Cela me semble utile. Chez les Sémites, chez les Juifs, le sel avait de multiples usages. Comme pour nous aujourd'hui, c'était un condiment, mais pas n'importe quel condiment. Un condiment, vous le savez tous comme moi, qui donne du goût, qui relève la saveur des aliments, et le roi en a fait la triste expérience. Sans sel, notre nourriture serait fade. Pourtant, le sel doit être utilisé avec délicatesse, avec parcimonie. En effet, si un plat manque de sel, on peut toujours en rajouter à son goût. Mais s'il y en a trop, c'est immangeable. Dans le passé, le sel était beaucoup plus important qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est commun, c'est bon marché. Vous allez dans n'importe quelle épicerie, vous avez un paquet de gros sel ou du sel fin. À l'époque, ça n'était pas le cas. C'était une denrée excessivement onéreuse qui a été à l'origine de très nombreuses guerres, qui a favorisé l'établissement de routes commerciales et qui était le moyen de payer les militaires. On payait les militaires avec du sel parce que le sel avait une grande valeur. Depuis plusieurs décennies, sauf en de rares pays, le sel n'a plus cette importance. Tout simplement parce que depuis le milieu du XXe siècle, tous les foyers de la Terre, ou presque, sont équipés avec des réfrigérateurs qui permettent de garder nos aliments, de les conserver. Avant, c'était le moyen de conserver longtemps des aliments. Mon grand-père, qui tuait des cochons, mettait la viande dans des jarres couverte de sel, et ça pouvait se garder plusieurs mois. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Vous êtes le sel de la terre. Quand Jésus s'adresse à ses disciples en leur disant ces paroles, il montre que nous sommes, par notre comportement, par nos vies, par la présence de Jésus dans nos cœurs, un témoignage pour tous ceux qui nous entourent. Jésus dit que c'est d'hommes et de femmes remplis du fruit de l'Esprit dont il a besoin. Des gens qui le servent, des gens qui le suivent, des gens qui lui obéissent. Par notre attitude, notre comportement, nos paroles avisées dans la vie de tous les jours, chacun de nous, en vrai disciple du Seigneur, devrait être à cet exemple quelque chose comme le sel, qui apporte du goût et qui empêche également, comme on l'a dit tout à l'heure, la corruption. Mais pour produire un tel effet, le sel ne doit pas être dilué, c'est-à-dire mélangé. Demandons-nous simplement comment remplir cette fonction, vous êtes le sel de la terre. Eh bien, pour remplir ce rôle, il faut d'abord avoir été appelé par Jésus-Christ, avoir été saisi par son amour. Il faut avoir réalisé ce que nous sommes, des pécheurs, notre incapacité à être agréable à Dieu par nous-mêmes. Et avoir reconnu, cela a été évoqué tout à l'heure quand on a partagé le repas du Seigneur, reconnu en Jésus notre Sauveur, et accepter son sacrifice comme pleinement efficace pour être justifié. La deuxième étape consiste à nous abandonner entre ses mains, à nous laisser façonner, comme l'argile dans la main du potier, Jérémie 18,6, à nous laisser remplir par Jésus lui-même, par son esprit, pour grandir dans sa connaissance, et cela à travers sa parole. C'est une étape de formation qui s'accomplit dans le temps. Ça n'est pas instantané. Et la troisième étape, elle nous est présentée par l'apôtre Paul dans son épître aux Galates. Il nous dit qu'il nous faut vivre et marcher selon l'esprit et porter du fruit dans le monde. Ce fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur, la maîtrise de soi. Voilà ce qui donne, quand nous le vivons dans nos vies de tous les jours, du goût à nous-mêmes pour toucher ceux qui sont autour de nous, manifester à travers toutes ces qualités l'amour de Dieu. Que ce fruit de l'esprit abonde dans nos vies et dans l'Église. Et dans la deuxième partie de Matthieu 5, verset 13, Jésus prévient aussi ses disciples du danger d'être un sel qui se dénature ou qui s'affadit, qui ne remplit plus son rôle. Si le sel perd sa saveur, le sel peut devenir impur, exposé à la pluie ou laissé dans un endroit humide, il devient insipide et perd toutes ses qualités. Il ne peut même plus être utilisé comme un engrais. Il n'est plus bon, comme le dit Jésus, qu'à être jeté dehors. C'est ce qui est rappelé dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 14. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assènera-t-on ? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier. On le jette dehors, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alors nous pouvons appliquer cette parole à nous-mêmes. Un sérieux avertissement à ne pas négliger. Et immédiatement, une question se pose. Sur le plan spirituel, comment puis-je perdre de ma saveur? Comment puis-je être non plus le témoignage que Dieu attend que je sois, mais quelque chose de fade, d'insipide? De quelle manière pouvons-nous être amenés, et ça peut arriver dans nos vies, à cesser de jouer le rôle actif et indispensable que Dieu attend de nous? En tant qu'individu, en tant qu'Église, avons-nous perdu de notre saveur? Nous pouvons nous interroger ce matin. Sommes-nous encore un bon exemple autour de nous? Notre vie spirituelle, notre communion les uns avec les autres, notre communion intime avec Dieu dans notre vie quotidienne, témoigne-t-elle de cet amour que Christ nous a révélé et de notre désir de lui être agréable là où il nous a placés? Est-ce que nous faisons tout pour être utiles au Seigneur dans notre vie de tous les jours? J'entendais récemment une personne exprimer son état de lassitude permanent. Elle avait beaucoup de mal à se lever, manquait d'enthousiasme le matin pour aller travailler. Elle n'avait plus la même motivation pour venir à l'Église et étudier la parole de Dieu. Elle n'avait même plus le même zèle pour prier ou se retrouver avec les frères et sœurs pour adorer Dieu. Elle était nonchalante, fatiguée, avec une tendance manifeste à s'endormir n'importe où, à n'importe quelle heure, même à l'Église. Sa vie en tant qu'enfant de Dieu avait perdu toute sa saveur, toute son influence bénéfique. Pourquoi? Dans ce cas particulier, c'est en analysant avec elle un petit peu le déroulement de sa journée que j'ai fini par reconnaître l'origine de son état. Fatigue permanente qui était due à une mauvaise gestion du temps, couchée très tard le soir, je dirais plutôt très tôt le matin, parce que assidue devant la télévision ou devant l'écran de l'ordinateur, et son comportement avait totalement changé. Changé sa vie, parce que perturbé son bon fonctionnement physiologique. Elle avait perdu son influence, son rayonnement. Elle n'avait plus dans sa vie cette présence du sel indispensable dans le témoignage. En 2 Timothée 3,5, Paul informe ses lecteurs en leur disant ceci. dans les derniers temps, il existera une forme de piété qui aura renié la puissance de la foi. Alors je me suis demandé, en lisant ce texte, est-ce que Paul avait en tête l'image du sel qui devient fade ? Voyez-vous, même si le sel a perdu de sa saveur, son aspect extérieur est toujours le même. Il reste blanc, ou gris, selon l'origine. Mais si vous goûtez ce sel, vous verrez et vous comprendrez très vite qu'il est devenu insipide, sans goût. Il a encore l'apparence du sel, mais il a perdu tout ce qui en fait la force, c'est-à-dire cette capacité d'assaisonnement. C'est, d'après ce que nous dit Paul, ce qui arrivera dans les derniers temps. Les hommes garderont la forme extérieure de la piété, de l'amour, mais en renieront la puissance. Beaucoup d'hommes présenteront encore les caractéristiques apparentes du christianisme. Activités liées à la foi chrétienne, vocabulaire chrétien, usage de la liturgie chrétienne. La forme sera là, mais le fond, l'essentiel, la foi, avec toutes ses conséquences, aura disparu pour laisser place à un vide spirituel. Demandons-nous, devant le Seigneur, si nous avons encore dans nos vies, dans notre conduite, dans nos paroles, tout ce qui fait la valeur du sel. Veillons à ne pas perdre la saveur que Christ lui-même a mis en nous, par son esprit. En conclusion, j'aimerais mettre en avant un autre enseignement de Jésus dans ces versets. Si le sel donne de la saveur aux aliments avec lesquels il est mêlé, si le sel empêche la pourriture ou retarde la corruption, rappelons-nous que nous avons, par notre témoignage vis-à-vis du monde de péché dans lequel nous sommes, un témoignage de valeur. Si la présence des croyants fidèles, par la volonté de Dieu, telle qu'elle devrait être, se perd parce que nous perdons de sa saveur, le mal dans notre monde n'ira qu'en s'accentuant. Mais le sel et notre attitude devant Dieu est aussi une bonne odeur, agréable au Seigneur, une saveur qui lui est tout particulièrement agréable. L'apôtre Paul nous dit en effet, en 2 Corinthiens 2,15, « Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ. » Parfum de mort pour les uns, odeur de mort. Parfum de vie et odeur de vie pour ceux qui sont sauvés. Que Dieu nous donne pour sa seule gloire d'être ce sel de la terre, cette lumière du monde et cette bonne odeur de Christ pour Dieu. Amen.